Bonsoir Jean Lebrun, bonsoir à tous. Suite et quatrième temps ce jeudi d'une semaine sur Emmanuel Kant dans les nouveaux chemins de la connaissance. Après les trois critiques, la critique de la raison pure, la critique de la raison pratique et la critique de la faculté de juger, c'est du mal radical, autrement dit, d'un texte intitulé « La religion dans les limites de la simple raison » que nous allons parler aujourd'hui, en compagnie de notre unique invité de la semaine et pour cause, Michael Fossel, maître de conférence à l'Université de Dijon. En quel sens est-ce qu'on peut dire, Michael Fossel, qu'il existe un mal radical? En quel sens Kant l'entend-il? Est-ce que le mal radical, c'est le mal absolu?
Non. Justement, le mal absolu, ça serait un mal qui serait une perversion définitive de l'espèce humaine, et ça serait donc dans une conceptualité kantienne, si vous voulez, cela impliquerait que la raison elle-même serait pervertie, qu'elle serait en quelque sorte victime du démon, ou au moins d'un malin génie, qui rendrait impossible pour l'homme de reconnaître son devoir et de le suivre. Or, la thèse selon laquelle la raison pratique, celle qui produit justement le devoir, pourrait être pervertie, est une thèse absolument contradictoire dans une anthropologie de type, disons, kantien. Mal radical.
Mais en revanche, on peut considérer qu'il y a chez Kant l'idée d'un mal, à la limite d'une autonomie du mal, enfin un objet qu'on appelle mal.
Il y a... pas une autonomie du mal. L'autonomie, elle est tout entière du côté du bien. Il y a une espèce, je dirais, de précédence du mal. C'est cela, mal radical, il est à la racine, une précédence du mal ou de la tentation, si l'on veut, par rapport à chacun de nos actes particuliers. Dès lors qu'il s'agit de liberté et de morale, pour Kant, de toutes les manières, la question se pose au niveau des intentions. Dire qu'il y a donc un mal radical, c'est dire qu'à la racine de la liberté, car c'est cela que veut dire mal radical, c'est que le mal est toujours le mal de la liberté humaine, à la racine de la liberté, il y a une tendance, un penchant au mal, pour reprendre l'expression de Kant, c'est-à-dire un penchant à subordonner la loi morale, le devoir, à la satisfaction de ses désirs égoïstes.
Ce que vous appelez un penchant au mal, est-ce que ça n'est pas tout simplement un penchant au penchant? C'est-à-dire, est-ce que le penchant au mal, ça n'est pas tout simplement la présence en nous de penchant ou d'inclination?
Parce que la présence en nous de penchant, de désir, d'inclination sensible...
Qui font que nous préférons, enfin que nous agissons selon des impératifs hypothétiques plus que selon des impératifs catégoriques.
Qui font que nous sommes incités à agir selon des impératifs hypothétiques. En conséquence, ce n'est pas dans le sensible que se trouve le mal, Kant le dit expressément, il y a trop peu dans le sensible, dans les désirs, dans quel qu'il soit d'ailleurs, pour expliquer le mal, il y a trop peu, cela veut dire que surtout il manque la chose qu'il faut pour qu'il y ait mal, et pour qu'il y ait mal, encore une fois, il faut un choix, une liberté. Donc si vous voulez, le mal, il n'est pas, c'est un concept relationnel, je dirais, il n'est pas dans les choses elles-mêmes, dans le monde, c'est pas du tout un manichéisme, hein, Kant, au sens où où les choses elles-mêmes seraient corrompues, où l'homme, la nature humaine elle-même serait corrompue en tant que nature, le mal, c'est un concept relationnel, il est dans le fait qu'un sujet choisit systématiquement de privilégier ses désirs sur les injonctions ou sur l'injonction morale. C'est bien pourquoi, d'ailleurs, le leitmotiv de la théorie kantienne du mal, qu'il élabore dans un texte qui s'appelle « La religion dans les limites de la simple raison », un texte relativement tardif, ce leitmotiv, c'est que l'homme est pleinement responsable du mal, même si il semblerait que, du point de vue de celui qui agit, le mal soit toujours déjà là. C'est une sorte d'explicitation philosophique et rationnelle de la célèbre phrase d'Ovide, qui sera reprise par saint Paul. Hein. Comment expliquer finalement que je vois le bien, et je le vois parce que pour Kant, la raison pratique me le présente, et qu'en dépit de cela, je fasse le mal.
Alors la phrase d'Ovide, elle est également citée dans l'Éthique de Spinoza, une proposition 17 de la quatrième partie. Je vois le bien, je l'approuve, et pourtant, c'est le mal que je suis. La question étant, d'ailleurs, la question est posée originellement, peut-être par Platon, d'ailleurs, hein,
oui.
Dans l'idée que nul n'est méchant volontairement, et qu'en somme, une connaissance, alors chez Platon, suffirait à dissiper la tentation de mal agir, ou la possibilité de mal agir. Chez Spinoza se pose la question de savoir comment ce que je sais a la puissance d'agir sur ce que je fais, en un sens, et donc non pas de gouverner mes actes, mais de les incliner, de les tourner dans le sens de ce qui m'est véritablement bénéfique, et donc m'éloignerait du mal, si tant est qu'on puisse parler d'un mal chez Spinoza, ou du mal chez Spinoza. Et chez Kant, on a si je vous suis, autour du mal radical, une double définition. Et radical, le mal, dans la mesure où, ou plus exactement, on parle de mal radical dans la mesure où il faut aller à la racine du mal. Et deuxièmement, dans la mesure où le mal lui-même corrompt à la racine toute maxime.
Alors, il faut aller à la racine du mal en tant que cette racine est en effet une perversion. Ce n'est pas la corruption dans le sens, disons, de la chute. C'est une perversion au sens littéralement d'un renversement de l'ordre moral des maximes. L'ordre moral des maximes, c'est, nous l'avons vu lorsque nous parlions de la critique de la raison pratique ou de la morale, l'ordre moral, cela consiste encore une fois à faire passer la loi morale avant les désirs. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, nier les désirs. Eh bien, une perversion, cela veut dire qu'au fond, on privilégiera toujours le moi, le petit moi égoïste, si vous voulez, sur le moi que Kant appelle le moi nouménal, la personnalité, l'humanité, l'idée morale. Mais en parlant de Spinoza et de Platon...
Il n'y a pas d'ambition normative derrière ça ?
Bien sûr, il y a une ambition
chez Kant,
normative.
Hein. Non, parce qu'on a dit quand même chez Kant que chez Kant, il n'y avait pas un décalogue kantien, que c'était pas un homme de, c'était un homme du devoir, mais ce n'était pas tellement un homme de devoir au pluriel.
Ah oui, non, il n'y a pas d'ambition normative au sens où, dans ce texte sur le mal radical, comme dans d'autres, on trouverait, comme dans les autres, on ne trouve pas, disons, un énoncé des vertus ou des manières, je dirais, de s'en sortir éthiquement. Il y a une prétention normative au sens où Kant nous rappelle au fait que le mal, ici il s'agit du mal comme faute, hein, pas du mal d'injustice, il y a d'autres textes de Kant sur ce thème, mais ici il s'agit du mal comme faute, le mal est à la charge des hommes, encore une fois, bien qu'il semble nous précéder sous la forme, encore une fois, d'une tentation. Il est tout à fait singulier, d'ailleurs, que dans le texte sur le mal radical, Kant interprète symboliquement le mythe adamique, le mythe du péché, dans le sens suivant, au fond, le mal, nous ne connaissons pas son origine, il y a une origine insondable du mal, inscrutable, je ne sais pas d'où vient le mal, pour une raison fondamentale, c'est qu'il vient de la liberté. La liberté, c'est l'absence du savoir, puisque c'est la fin de la connaissance, nous ne pouvons pas... C'est une cause qui n'a pas elle-même d'effet, un acte libre. Bon. Donc l'origine est inscrutable. Et Kant nous dit, c'est un peu comme symboliquement dans le mythe de la Bible ou le mythe de la Genèse, le serpent. D'où vient le serpent ? D'où vient cette tentation du mal qui est au fond une espèce de mystère, puisqu'elle apparaît dans un moment où le mal n'est pas censé, si vous voulez, exister.
De sorte qu'il interprète comme un mystère le fait que je sache ce qui est mauvais et que je le fasse quand même.
Alors, effectivement, c'est un mystère, mais c'est un mystère, bien sûr, c'est un mystère, mais au sens où qui se laisse expliquer par l'inexplicable même, si j'ose dire, c'est-à-dire par la liberté, qui est un principe pour Kant, la liberté ici au sens non pas de l'autonomie, bien évidemment, mais du libre arbitre, c'est-à-dire la capacité de choisir plutôt le mal que le bien, demeure mystérieuse en ce sens qu'elle est littéralement contradictoire avec la définition positive de la liberté pour Kant comme autonomie, obéissance à la loi qu'on s'est prescrite. Alors c'est un mystère ou c'est insondable, mais c'est aussi une manière, surtout, et je pense que c'est au fond la finalité, le but de ce texte de Kant, de reconnaître une existence au mal. Parce que les auteurs que vous avez cités, que ce soit d'ailleurs Platon ou a fortiori Spinoza, finalement concluent soit au fait que le mal est une privation, soit qu'il est un néant, qu'il n'existe pas littéralement. Pour Kant, il y a une certaine positivité du négatif, si je puis dire, une certaine positivité du mal. Le mal est bien une réalité de l'histoire, même si ce n'est pas la réalité la plus profonde. Hein, car il faut aussi rajouter que plus profond que le penchant au mal, il y a ce que Kant appelle la disposition au bien. Il faudrait presque se représenter les choses, si vous voulez, de manière géologique. Il y a plusieurs couches dans l'anthropologie, et au fondement de cette anthropologie, il y a cette disposition au bien, c'est-à-dire cette capacité toujours disponible, mais à chaque fois en même temps fragilisé par le mal, cette capacité à privilégier cette fois-ci le devoir sur la satisfaction de ses désirs sensibles.
On va entendre d'ailleurs un extrait de l'essai pour introduire en philosophie le concept de grandeur négative, qui est peut-être de tous les textes de Kant le plus difficile, d'ailleurs, qui est un texte tout à fait étonnant et extraordinairement difficile. Il y a quand même une tension, et on va revenir dessus, hein, chez Kant, entre l'idée d'une existence du mal, ce que j'appelais maladroitement autonomie du mal tout à l'heure, et l'idée que le mal résulte de la liberté et d'un mésusage du libre arbitre. On va entendre tout de suite un extrait de l'essai pour introduire en philosophie le concept de grandeur négative, et on va revenir ensuite sur ces difficultés.
En morale, il ne faut pas toujours considérer le zéro comme une négation qui résulte d'un manque, ni un résultat positif de plus grande importance comme la preuve d'une plus grande activité déployée en vue de ce résultat. Donner à un homme 10 degrés d'une passion qui, dans un certain cas, s'oppose aux règles du devoir, par exemple l'avarice. Faites-lui dépenser 12 degrés d'un effort inspiré par les principes de l'amour du prochain. La conséquence est qu'il sera de 2 degrés bienfaisant et secourable. Pensez à un autre avare de 3 degrés et capable de 7 degrés d'agir selon les principes de l'obligation. L'action sera d'une grandeur de 4 degrés lorsque, après le conflit avec son désir, il sera utile à un autre homme. Mais il est incontestable que, dans la mesure où cette passion peut être regardée comme naturelle et involontaire, la valeur morale du premier est plus grande que celle du second, bien que, si l'on voulait l'évaluer d'après la force vive, la conséquence dans le second cas dépasse celle du premier. C'est pourquoi il est humainement impossible de déduire d'une manière certaine le degré de l'intention vertueuse d'autrui à partir de ses actions. Et celui qui voit dans le fond des cœurs s'en est réservé pour lui seul le jugement.
Je ne comprends rien, Michael Fessel. Je ne comprends rien à ce texte, j'ai lu plusieurs fois. Je ne comprends pas. Est-ce qu'on est dans la pondération d'un mal par un bien, donc une pesée en somme, où il s'agirait de compenser un mal par un bien? Est-ce qu'on est dans la désignation d'une négativité pure? Je ne sais pas ce qu'il veut dire.
Eh bien ici, évidemment, on est face à une tentative quasiment de mathématisation du projet de la morale. Hein. On calcule les intentions en termes de degrés et de conflits. Je crois que c'est l'idée qu'il faut retenir. Le concept de grandeur négative, Kant le trouve d'abord à l'œuvre dans la physique. Hein. C'est l'idée selon laquelle il n'y a pas une simple inertie des corps, mais qu'il puisse y avoir une résistance d'un corps pour expliquer le mouvement d'un corps, d'un bateau sur un fleuve. Il faut tenir compte de ce qui s'oppose à ce mouvement, c'est-à-dire en l'occurrence du courant éventuellement contraire qui va bloquer, si vous voulez, ou qui va retarder plus exactement, le mouvement du bateau. Et bien d'une certaine manière, Kant, de manière assez audacieuse, utilise ce modèle ou ce symbole physique, ou cette réalité physique de la grandeur négative, ici la grandeur négative c'est celle du courant qui va contre le mouvement du bateau, pour la transposer au domaine moral. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'agir humain, l'agir moral est fondamentalement conflictuel. Il ne faut pas se le représenter, si vous voulez, sur un mode uniforme, sur le mode d'ailleurs du Conatus, par exemple, spinoziste, c'est-à-dire que dans l'agir, dans l'action humaine, il y a toujours des résistances internes. Autrement dit, je ne fais pas le bien sans effort, car lorsque je fais le bien, ou lorsque je choisis plus exactement de faire le bien, se présente à moi, précisément dans le cadre du mal, un penchant à résister à ce qui est la destination morale de l'homme, et ce penchant à une certaine grandeur, qu'on ne pourra plus, dans le cadre de la philosophie morale de Kant, quantifier, comme il le fait ou comme il tente de le faire ici, mais une grandeur qui vient s'opposer. Au fond, l'homme est fait d'un bois courbe, comme le dit Kant dans d'autres textes, il y a une récalcitrance humaine. Et le mal radical, je dirais, c'est l'idée d'une récalcitrance interne à la volonté humaine. L'homme n'est pas spontanément moral, non pas seulement au sens où il aurait des désirs, mais au sens où il a une tendance à privilégier ses désirs sensibles sur le choix, disons, de l'autonomie.
Ce que vous désignez comme le conatus spinoziste, hein, c'est-à-dire la persévérance dans l'être, qu'à mon avis, indûment, vous tenez pour uniforme, chez Spinoza, désigne donc la tendance à persévérer dans son être, mais qui en passe également par ce que Kant interprète précisément comme une récalcitrance, c'est-à-dire la possibilité pour l'homme de se nuire, la possibilité pour l'homme de se faire du mal, qui exprime là encore la tendance à persévérer dans l'être, de la même façon que chez Kant, si l'on désire le mal, c'est aussi parce que l'on pense que c'est un bien pour soi.
À ceci près que dans le conatus spinoziste, si vous voulez, il n'y a pas véritablement de récalcitrance interne. Lorsque on ne se fait littéralement jamais du mal, hein, on ne se suicide pas, on est suicidé, disons, pour Spinoza. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre, si vous voulez, de la destruction de soi, vient de l'extérieur. Ce sont des causes extérieures qui expliquent pourquoi un sujet fait le mal ou se fait du... Enfin, d'ailleurs, le mal fait des choses mauvaises ou se fait lui-même du mal. Pour Kant, évidemment, c'est une philosophie de l'intériorité, malgré tout. Pour Kant, il y a, de manière, je dirais, interne à la conscience des sujets, une tentation de privilégier, de faire le mal, ou même de se faire du mal, tout simplement parce que, et d'ailleurs, l'exemple du suicide, Kant le reprend aussi, en réalité, on n'est pas suicidé pour Kant, on se suicide, c'est-à-dire que cela relève ultimement tout de même d'un acte de liberté.
D'un acte de liberté, d'un acte de libre arbitre. Alors qu'effectivement, pour Spinoza, celui qui se suicide, en cela d'ailleurs Spinoza, qu'on a bien souvent identifié indûment aux stoïciens, s'oppose de façon frontale à eux, puisque les stoïciens présentent le suicide comme une reprise de la liberté de l'individu. D'ailleurs, on invoque à l'appui de cet exemple le modèle de Sénèque ou de Caton, qui en fait, dont l'histoire montre bien qu'ils ont été contraints de se suicider, d'ailleurs par les circonstances politiques. Si Sénèque n'était pas en rapport avec Néron, il n'aurait pas eu besoin de se suicider. Il n'aurait pas éprouvé la nécessité de se suicider, de sorte que ce qui semble une reprise de la liberté est en fait interprété chez Spinoza comme une façon de faire allégeance ou de se soumettre aux contraintes de l'extériorité. Mais laissons cela. Revenons-en à la question kantienne, en prenant le détour d'un autre philosophe. Et je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. Cet autre philosophe, ça n'est ni Platon, ni Spinoza, ni Augustin, d'ailleurs, dont on aurait pu parler à propos de la liberté, dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais Plotin. Dans les Énéades, Plotin pose de temps en temps que le mal résulte d'une inaptitude de l'âme à regarder au-delà d'elle-même, à regarder vers le principe d'où elle tire son origine, donc à se transcender, à se dépasser elle-même, mais d'un narcissisme. Plotin est peut-être le premier penseur du narcissisme, une façon qu'a l'âme de se regarder dans un miroir qu'il identifie à ce moment-là la matière. Un narcissisme qui fait qu'il prend l'exemple de Narcisse lui-même qui se noie, qui se noie dans son propre reflet, de sorte que ici nous avons chez Plotin l'idée qu'il n'existe pas de mal au sens d'un diable qui nous tournerait vers la mauvaise action, mais le mal résulte d'une tendance propre en l'homme, enfin même pas d'une tendance, d'une décision de l'homme qui se contemple lui-même plutôt que de contempler au-delà de lui-même. Et puis de temps en temps, Plotin, se contredisant explicitement dans des textes plus tardifs, dit qu'il y a une, là pour le coup l'expression est valable en ce qui concerne, une autonomie du mal, un principe actif en somme, un néant vivant qui nous tirerait du côté du mal. Et en somme, de temps en temps, Plotin est moniste, de temps en temps, il est dualiste, il envisage la possibilité d'un mal autonome, au point d'ailleurs d'imaginer la solution bâtarde du mal comme un esclave, dit-il, enchaîné dans des chaînes en or. Alors, entre ces deux options, j'arrive pas à savoir, entre ces deux options que déploie Plotin au IIIe siècle, c'est-à-dire d'un côté la positivité, entre guillemets, du mal, l'existence du mal, et de l'autre côté, le fait que le mal relève simplement d'une corruption du libre-arbitre, laquelle choisit Kant ?
Ah, incontestablement la seconde. Parce que si par positivité du mal, on entendait une réalité du mal, le mal quasiment comme une chose, bon, qu'on identifierait d'ailleurs tendanciellement à la matière, alors là, évidemment, Kant s'oppose totalement à cette conception qui finirait, au fond, à confondre le mal, ou qui reviendrait à confondre le mal, avec la finitude. Or, la finitude, si j'ose dire, chez Kant, elle est heureuse. La finitude, c'est l'impossibilité ou certaines limites de la connaissance, on en a parlé, l'impossibilité de connaître Dieu. Et il y a même certains textes de Kant où il dit, fort heureusement, nous ne connaissons pas Dieu, car ce serait presque une connaissance d'ordre tragique. Hein. Il y aurait quelque chose comme une hubris, hein, pour parler de manière chic, une démesure dans cette connaissance, qui est précisément, en un sens, la démesure qu'on retrouve dans le mal. Hein. Alors, donc, du point de vue de Kant, il y a certes dans le mal un aveuglement, ou je dirais plutôt d'ailleurs une surdité. Le mal, c'est le fait non pas d'être sourd à la loi morale ou au devoir, mais de se rendre sourd à elle. C'est-à-dire, au fond, c'était en quoi c'est un acte de liberté.
Se rendre sourd, ça suppose qu'on l'entende.
On l'entend même quand, on l'entend même quand on ne veut pas l'entendre. C'est littéralement l'image de boucher les oreilles, hein, si vous voulez. On ne veut pas l'entendre, mais on l'entend quand même, d'où les phénomènes que Kant analyse, comme le remords, par exemple. Elle continue, si vous voulez, comme une sorte d'écho lointain, à travailler même le méchant.
Bon. Ce qui veut dire que quand on fait le mal, on sait qu'on le fait.
Lorsqu'on fait le mal, on sait qu'on le fait, c'est-à-dire que cet aveuglement doit être pris en quelque sorte de manière dynamique, on choisit de s'aveugler, certainement pas au sens où le mal serait le résultant d'une ignorance. Là aussi, il est anti-platonicien, le mal ne résulte pas d'une ignorance au sens théorique, tout simplement parce que le bien ne résulte pas d'un savoir. Voilà. Donc il est assez logique, si vous voulez, que l'on ne puisse pas penser le mal ou le bien sur le modèle de celui qui connaît pour le bien ou celui qui ne connaît pas. Le mal et le bien se choisissent sur le modèle. Le mal et le bien doivent être pensés à partir du choix. C'est ce que je choisis. Encore une fois, est-ce que je choisis de privilégier le devoir en tant que devoir, je dirais, la disposition au bien, mais qui n'est qu'une disposition, une capacité fondamentale de l'homme, non pas un état, si vous voulez, ou est-ce qu'au contraire, les sujets choisissent de privilégier ce qu'il appelle appelle la méchanceté, c'est-à-dire qui n'est pas qui n'est pas, si vous voulez, encore une fois, le côté diabolique. Hein. Mais la méchanceté, c'est cette capacité que ont tous les sujets, enfin qui est en fait une impuissance, une incapacité à privilégier leur subjectivité personnelle au sens empirique du terme, si vous voulez, à l'exigence morale elle-même.
Mais si la méchanceté n'est rien en soi, mais seulement une impuissance, seulement une incapacité, qu'est-ce qui distingue à ce moment-là Kant de Spinoza, qui désigne précisément la méchanceté également, ou la tentation que nous avons de mal agir ou de nous nuire, comme l'expression davantage d'une impuissance que de l'allégeance à une forme souveraine de la négativité?
Parce que cette impuissance, chez Kant, elle est choisie. Je me rends impuissant, littéralement, ou je me rends non libre. Toute la problématique ou toute la difficulté,
c'est
le paradoxe
une autre,
même.
C'est une autre tension. C'est librement que je choisis d'abjurer ma liberté.
Oui. C'est finalement, en un sens, bon, il faudrait nuancer, c'est assez sartrien. Je ne peux choisir que librement la non-liberté. Alors évidemment, cette formule, si vous la prenez telle quelle, je suis librement non libre, ou je me rends, c'est une servitude volontaire, je me rends moi-même non libre, elle est contradictoire si vous prenez libre dans les deux sens, dans le même sens, dans les deux occurrences. Bon. Or, ça n'est précisément pas le cas chez Kant, puisque lorsqu'il dit le mal, c'est se rendre librement non libre. Le premier terme, la première occurrence de librement, c'est au sens du libre arbitre, c'est-à-dire la capacité de choisir. Je choisis indifféremment le bien, le mal. Bon, donc je me rends librement non libre. La deuxième occurrence, le non libre, c'est le non libre au sens cette fois-ci d'autonome, c'est-à-dire de choisir le bien. C'est librement que je choisis de ne pas être libre, si par liberté, cette fois-ci, on entend l'autonomie, l'obéissance au devoir.
De sorte qu'il y a donc deux définitions de la liberté. La première est capricieuse, hein, c'est celle du libre arbitre, on pourrait le dire comme ça.
Oui,
hein.
Bien sûr, oui.
Capricieuse au sens où je fais ce que je veux. Première liberté.
Oui.
Deuxième liberté, ce serait plutôt la parfaite liberté, au sens où l'entendent les philosophes du XVIIe siècle, pour le coup, c'est-à-dire liberté de choisir le bien.
Liberté de choisir
le bien. Je suis d'autant plus libre que j'agis en vue du bien.
En vue du bien, et en vue du bien que Kant identifie en réalité à la loi morale. Donc la première des libertés, la liberté au sens du libre arbitre, c'est la première dans l'ordre, si vous voulez, psychologique, à la limite chronologique, mais ça n'est pas la première au sens d'une valeur ontologique. La liberté au sens positif, c'est la formule d'ailleurs de Kant, c'est l'autonomie. La seconde, c'est une liberté qui est au fond la liberté la plus proprement humaine. Parce que si vous voulez la liberté au sens d'autonomie, le choix de la loi, elle est commune à Dieu et aux hommes. Elle n'est pas spécifiquement humaine, ou en tout cas à tout ce que Kant appelle les êtres raisonnables, bon, puisque c'est la raison qui produit la loi. La liberté humaine, proprement humaine, hein, humaine trop humaine si j'ose dire, c'est la liberté de l'arbitre, c'est-à-dire celle d'avoir cette permanente proposition du bien, mais de pouvoir choisir, si vous voulez, de ne pas la suivre ou de ne pas y adhérer. Le credo de Iago, c'est Othello de Verdi qu'on entend ici. Et Michael Fossel qui est avec nous pour cette quatrième étape d'un parcours de la philosophie d'Emmanuel Kant. C'est du mal radical que nous parlons aujourd'hui, autrement dit, du texte intitulé « La religion dans les limites de la simple raison », où il est donc question du mal radical dont on a vu qu'il fallait le distinguer du mal absolu, puisque le mal radical, c'était à la fois prendre le mal à la racine et envisager en même temps la perversion de toutes nos maximes. Michael Fossel, la figure de Iago, tiens, justement, la figure de Iago, est-ce qu'on peut dire de Iago qu'il est libre, cet homme qui est toute haine? Est-ce que d'un point de vue kantien, c'est librement, et donc, par conséquent, Iago est-il responsable de ses actes? En un sens paradoxal, lui, parce que Kant considère ou identifie à un moment le mal aux passions. Alors on pourrait se dire, voilà encore une version, si vous voulez, de la haine étant le paradigme de des passions, si vous voulez, mauvaise. On pourrait dire, voilà Kant, une fois de plus, condamnant le corps, le désir, le sensible.
Pas seulement, Kant désignant l'individu comme agi plutôt qu'agissant de façon souveraine, hein, puisque ici il est soumis aux passions.
Oui, mais alors justement, c'est là où il reste malgré tout Kant, c'est qu'il distingue Kant entre les passions et les affects. Et les affects, c'est précisément ce que je ne choisis pas. C'est le désir, avec leur caractère impulsif, spontané. Et il parle à ce moment-là de la colère. Alors ça, c'est pas du tout le mal. Ça, c'est quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose qui éprouve. Ça peut même être, dans un certain cas d'ailleurs, tout à fait positif. Il y a de saines colères, si l'on peut, de belles indignations morales. Et il distingue les affects, donc, qui sont de l'ordre, encore une fois, du désir, des passions. Et la passion qui correspond à la colère, c'est la haine. Et il dit de manière très, très significative, la différence entre une passion et une colère, c'est entre une passion et un affect, c'est que la passion, elle est calculatrice. Elle est froide, c'est la passion sur la longue durée, c'est la passion qui calcule en termes précisément de moyens, la possibilité, si vous voulez, d'accéder à sa fin.
C'est la définition la plus originale de la passion qu'on puisse inventer.
En effet, l'affect qui correspondrait à la passion de la jalousie, hein, vous parliez des drames de Shakespeare, ça serait, disons, l'amour. Bon. Et l'affect peut avoir, encore une fois, un sens positif. La passion, c'est l'affect systématisé. Ça, c'est le mal. Parce que je choisis de faire de mon affect, qu'il soit amour ou colère, le principe même de mon existence. Je choisis librement, au sens du libre arbitre, on en parlait un instant, de faire de l'affect plus que ce qu'il n'est, c'est-à-dire une part de moi-même, je choisis de l'identifier à moi-même et d'en faire le principe même de toutes mes actions et de ma vie elle-même. Et en ce sens, on rentre dans le mal, c'est-à-dire aussi bien par la liberté, parce que la passion, c'est effectivement paradoxal, ça n'est pas systématiquement, ça n'est pas l'opposé de la liberté, ça c'est l'affect. L'opposé, c'est encore une fois un affect librement, non seulement consenti, mais revendiqué comme tel et systématisé, et là cela mène nécessairement à la destruction. Au mal, et donc de ce point de vue-là, cela appartient. Il dit à un moment, les passions, c'est la formule qu'il emploie, c'est les gangrènes de la raison pratique. Et il veut dire par là qu'il faut littéralement, comme toute gangrène, amputer. Hein, il n'y a rien d'autre à faire. Hein, c'est une reprise en un sens peut-être.
C'est une méthode radicale.
C'est une méthode radicale, mais les passions, pas les affects.
On est d'accord. Est-ce que, pour incarner tout ça, parce que c'est un débat difficile, et on a le sentiment effectivement d'une tension, en tout cas c'est extrêmement subtil de distinguer précisément la part de liberté qui est à l'œuvre, ou d'être agi qui est à l'œuvre, ou de soumission aux contraintes extérieures. Est-ce que, pour incarner ça, on ne peut pas tout simplement prendre l'exemple d'un type qui commet un meurtre, par exemple, et dont l'avocat dit « celui que vous vous apprêtez à condamner comme responsable du crime qu'il a commis ». En vérité, j'attire votre attention, messieurs les jurés, sur le fait qu'avant d'être responsable de ses actes, il est d'abord la victime d'une société qui l'a contraint à agir comme il a fait, qu'en somme, il y a ce qu'on appelle des circonstances atténuantes. Est-ce que ce paradoxe qui veut qu'on tienne quelqu'un pour responsable de ses actes, tout en lui attribuant des circonstances atténuantes, c'est-à-dire tout en expliquant son acte, sans que cette explication ne dissipe complètement sa responsabilité, est-ce que cette tension, justement, entre la responsabilité d'un acte et les circonstances qui viendraient en atténuer, justement, la responsabilité, ne correspondent pas exactement à ce que Kant essaie de décrire.
En effet, oui. Parce que si... alors, on parle évidemment de circonstances atténuantes à propos des crimes passionnels. Alors là, on reprend le terme des passions, mais pas en un sens kantien. Mais si vous voulez, on pourrait l'illustrer. Le crime, il y a circonstances atténuantes lorsque le crime est commis dans un contexte, si vous voulez, impulsif. C'est-à-dire celui qui le commet ne l'a pas prévu, ne l'a pas prémédité. Donc, c'est sur le coup de ce que Kant appellerait un affect. C'est-à-dire une indignation telle, une souffrance telle, que le sujet n'est plus en quelque sorte maître de lui. Quoique pour Kant, il demeure libre, c'est pourquoi il faut le juger, le condamner, mais on peut admettre éventuellement des circonstances atténuantes.
En revanche, est-ce qu'on ne joue pas sur les deux tableaux quand on fait ça ?
En revanche, un crime passionnel, non, parce que dans le crime passionnel, au sens des passions kantiennes, là, on calcule. On calcule, si vous voulez, le jaloux, le mari jaloux qui prémédite d'assassiner l'amant sur des semaines et qui le suit et qui met en œuvre toute une série de procédures. Celui-là n'est pas, si vous voulez, il est dans la froideur du calcul et pas du tout dans la chaleur de l'impulsion. Alors on joue sur les deux tableaux en un sens, oui, sauf que lorsque l'on prend le cas du jugement, évidemment pénal, on est dans le domaine du droit. pas de la morale. Pour Kant, il est clair que dans le domaine moral, nous sommes libres, je dirais, à chaque instant, de tous nos actes. Alors c'est une position radicale que l'on peut éventuellement nuancer. Dans le domaine du droit, où il n'est plus question tellement de l'intention, mais plutôt des actes, on juge des actes et pas des intentions, il n'y a pas de procès d'intention chez Kant au sens juridique du terme procès. Dans ce cas-là, on peut tenir compte, puisqu'on juge des actes, et que les actes sont toujours pris dans des circonstances, on peut tenir compte des circonstances. Si vous voulez, Kant, c'est une philosophie qu'on...
Mais par exemple, pardonnez-moi, juste pour prendre un exemple, quand dans L'étranger d'Albert Camus, l'étranger Meursault, il est condamné à mort, pourquoi ? Non pas seulement parce qu'il a tué quelqu'un, mais pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement, il a tué, pour trois raisons. Un, il a tué. Deux, après avoir tué, il a tiré quatre balles sur un corps inerte, et on ne comprend pas pourquoi, et lui-même ne comprend pas pourquoi. Lui-même est incapable de dire pourquoi. Et deux, parce qu'il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa propre mère. Est-ce que dans ce cas de figure, on est exactement, on est dans un ordre où on moralise le droit ?
Certainement, enfin on le socialise en tous les cas, parce que le fait que, enfin le juger ou le condamner parce qu'il n'a pas pleuré,
c'est ce qui emporte la décision
mère,
des jurés,
c'est ce qui l'emporte effectivement. C'est invalide juridiquement cette décision, si vous voulez, parce que d'un point de vue strictement, on n'est plus là dans la perspective métaphysique de Camus, mais d'un point de vue d'analyse, si l'on veut juridique, il est certain que le jugement, s'il ne doit porter que sur le jugement pénal, s'il ne doit porter que sur des actes, doit faire abstraction, à la limite, je dirais même, de la psychologie de l'accusé. Et en tous les cas, de son comportement au-delà de cet acte. Parce que là, en réalité, on voit très bien dans l'exemple de Meursault que ce que l'on juge, c'est ce que l'on ne veut pas voir, c'est-à-dire la possibilité, c'est ce que l'on interprète comme une forme d'insensibilité par rapport à ce qui est le pire pour la morale sociale, peut-être pas la morale tout court, c'est-à-dire l'insensibilité par rapport à la mort de sa mère. On a jugé de l'intention de Meursault, on a jugé de son intériorité, on a sondé ses cœurs, si vous voulez. Et dans les textes, le texte qu'on a lu tout à l'heure pour l'essai extrait de l'essai pour introduire le concept de grandeur négative, la dernière phrase, c'est « Celui qui voit dans le fond des cœurs s'en est réservé pour lui seul le jugement », et bien celui-là, c'est Dieu, et certainement pas un jury populaire.
De là, d'ailleurs, le passage dans lequel, je crois que c'est le procureur, brandit la croix du Christ en lui disant « Mais comment peux-tu ne pas y croire ?»« Comment peux-tu ne pas y croire » dit-il à Meursault, et Meursault, à ce moment-là, dit qu'il éprouve un certain ennui et que le procureur lui fait peur. Non, c'est pas le procureur, c'est le juge d'instruction. On va entendre un nouveau texte de Kant. Cette fois-ci, un extrait de La religion dans les limites de la simple raison. Un texte qui s'achève sur l'idée d'un mal radical inné dans la nature humaine. Et je voudrais savoir, au terme de ce texte d'ailleurs, qu'on va donc entendre, comment concilier donc cette innéité en nous du mal radical et en même temps la responsabilité qu'il induit.
La proposition « l'homme est mauvais » ne peut avoir un autre sens que celui-ci. Il est conscient de la loi morale et il a cependant admis dans ses maximes une occasionnelle déviance par rapport à elle. Il est mauvais par nature signifie que cette assertion s'applique à lui quand on le considère dans son espèce. Cela ne veut pas dire qu'une telle qualité pourrait être déduite du concept de son espèce, celui de l'homme en général, car autrement elle serait nécessaire, mais qu'il ne peut être jugé d'une autre façon selon ce que l'on connaît de lui par l'expérience, ou bien qu'on peut présupposer ce penchant comme subjectivement nécessaire en chacun, et même chez le meilleur des hommes. Or, comme ce penchant ne doit pas être regardé comme moralement mauvais, non pas par conséquent comme une disposition naturelle, mais comme quelque chose qui peut être imputé à l'homme et doit par suite consister en maximes de la volonté contraires à la loi, mais que par ailleurs, en raison de la liberté, ces maximes doivent être considérées comme contingentes, ce qui à son tour ne saurait s'accorder avec l'universalité de ce mal si le fondement subjectif suprême de toutes les maximes n'était lié à l'humanité même d'une quelconque manière et pour ainsi dire enraciné en elle. Il en résulte que nous pourrons appeler ce penchant un penchant naturel au mal. Et puisqu'il faut que l'homme soit toujours coupable par lui-même, nous qualifierons ceci comme un mal radical inné dans la nature humaine, mais que nous avons cependant contracté nous-mêmes.
« La musique du caïman pour illustrer cet extrait de La religion dans les limites de la simple raison, c'est un choix de François Connac. Si j'avais été réalisateur, j'aurais mis la musique de Dark Vador pour illustrer le même texte. Michael Fossel, pour comprendre ce texte et affronter peut-être ce qui semble en tout cas une contradiction, à qui n'y adhère pas spontanément, je voudrais comprendre comment le mal radical peut être inné dans la nature humaine alors que nous l'avons contracté. Comment pouvons-nous contracter ce qui est inné en nous ?
Oui, d'ailleurs, tout ce texte est construit sur une série de reprises, d'allées et de retours. Il est nécessaire, mais il faut le représenter comme contingent. Il semble nécessaire, il faut le
représenter comme contingent. Allées et retours qui sont vraiment synthétisés, si j'ose dire, dans cette dernière phrase où on a vraiment...
Exactement,
là,
parce que Kant essaie, de cerner et d'éclairer l'insondable. C'est-à-dire que, encore une fois, il faut comprendre que le mal est radical parce qu'il provient de la liberté. Or, un choix radical, Sartre reprendra la formule d'ailleurs, est par définition un choix dont nous ne pouvons pas reconstituer la logique, puisqu'il doit être pris à l'initiative ultime, je dirais, du sujet. Alors, en conséquence de quoi, Kant ne cesse de dire on peut le considérer comme inné, mais il doit en même temps être représenté comme contracté. Eh bien, au fond, c'est la dualité entre la raison théorique. La raison théorique ne peut le représenter que comme inné, toujours déjà là, une cause qui nous précède, la raison qui connaît, hein, c'est ça la raison théorique. Mais d'un point de vue pratique, qui, je le rappelle, a chez Kant un primat absolu, du point de vue de la morale, il faut en revanche poser et maintenir que cette innéité apparente, le fait que le mal semble toujours déjà là, est en fait le résultat d'un choix, quand bien même nous ne pourrions pas nous remonter au moment de ce choix, car c'est un choix intemporel. Pour quand il n'appartient pas, alors nous ne pouvons pas dire que tel individu, à tel moment de sa vie, a décidé, si vous voulez, de faire le mal. D'ailleurs, toutes les difficultés, précisément, nous évoquions tout à l'heure le cas des procès juridiques, toutes les tentatives des experts pour faire, si vous voulez, remonter le moment de la catastrophe, le moment où un sujet donné a dévié pour sombrer dans le crime, sont des tentatives pour Kant qui sont, d'un point de vue moral, vouées à l'échec.
En somme, ce que dit Kant, très simplement, c'est qu'on peut dire d'un homme, bah oui, il est comme ça, mais en même temps, c'est de sa faute.
En un sens, c'est son caractère empirique d'être comme cela.
C'est ce que j'allais vous dire.
Mais il y a un caractère, la formule chez Kant, intelligible, qui fait qu'il a, d'une certaine manière, choisi son caractère empirique. S'il ne le faisait pas, s'il n'avait pas choisi ce caractère empirique, la conclusion qui s'imposerait immédiatement, et beaucoup l'ont emprunté dans certaines conceptions de la psychologie, s'il ne l'avait pas choisi, il ne pourrait pas non plus le reprendre. Et donc, ça serait la condamnation définitive d'un être, un individu, à n'être rien d'autre que son caractère lui dicte d'être.
Le mot de caractère, vous l'employez ici, et ça n'est pas innocent, si j'ose dire. Peut-être que la question que Kant permet d'éclairer, qui est peut-être d'ailleurs une des questions les plus difficiles en philosophie, c'est la question tout simplement d'un tempérament ou d'un caractère, qu'on peut retrouver chez Aristote d'ailleurs. Ce paradoxe entre l'idée que les hommes sont quelque chose, ont tel ou tel tempérament, et qu'en même temps ce tempérament explique que les hommes fassent certains choix, et en même temps les choix qu'ils font forgent le tempérament en vertu duquel ils font ces choix, de sorte qu'on ne sait jamais qui est premier, de l'œuf ou de la poule. Ce qui est la question extrêmement redoutable d'un tempérament en philosophie, qui n'est pas la question, et c'est même le contraire d'ailleurs, qui n'est pas la question d'un essentialisme philosophique où un homme serait au départ tout ce qu'ensuite il devient, n'est-ce pas, comme s'il était en germe tout ce qu'il sera plus tard. Ça n'est pas du tout la même affaire de dire qu'un homme a un caractère ou un tempérament, parce que cette position-là, dire qu'un homme a un caractère ou un tempérament, expose par là même ce caractère à être modifié ou enrichi peut-être par les circonstances de la vie qu'il n'aurait pas choisi sans ce caractère préalable.
Bien sûr, lorsque Kant dit que le mal peut être considéré comme inné, il n'entend pas l'innéité au sens d'une sorte de capital génétique qui en ferait un criminel. Hein. Il ne serait pas partisan de repérer chez les enfants de maternelle, si vous voulez, le potentiel naturellement criminel.
Vous voulez dire que le président de la République n'est pas kantien ?
En tous les cas, je ne pense... Enfin, je ne sais pas, je ne sonde pas les cœurs et les intentions, mais en tous les cas, sur ce point-là, il a en tous les cas franchi la limite imposée par la raison pratique et les concepts de liberté. Ce qui est certain, c'est que pour Kant, il y a un tempérament, il y a un caractère, il y a un éthos, mais il faut le représenter sous la forme d'une seconde nature. C'est-à-dire qu'à force, si vous voulez, de faire le mal, il y a comme une espèce d'enfoncement progressif dans le mal, et d'ailleurs, positivement aussi bien dans le bien. C'est-à-dire qu'il y a une habitude du bien qui peut être contractée, qui doit l'être même aux yeux de Kant, et qui permet à un sujet de, d'agir moralement. Pour celui qui fait le mal, encore une fois, il ne le fait pas au sens où on pourrait déduire de sa nature singulière qu'il est mauvais, car ça le rendrait ce sujet irrécupérable. Et il faut postuler qu'il est toujours capable d'une reprise, que Kant, dans un vocabulaire religieux, appelle d'ailleurs conversion, mais il faut prendre conversion au sens strict, puisque le mal est une perversion, et bien le retour au bien sera nécessairement une conversion, hein, c'est-à-dire un retour à l'ordre normal et à l'ordre moral, surtout des choix. Mais l'innéité, ici, il faut l'entendre d'un point de vue, je dirais, quasiment psychologique. Hein, c'est quasiment la plainte de celui qui fait le mal et se sent incapable de faire autre chose, car il l'a toujours fait.
C'est vertigineux comme problème. De sorte qu'il y a chez Kant, à la fois, une disposition originelle au bien et l'innéité du mal.
Il y a une disposition originelle au bien et un penchant au mal. La disposition étant plus originelle, si je puis dire, que le penchant.
Première nature, seconde nature.
En un sens, oui. Et tout porte vers la troisième nature, si je puis dire, c'est-à-dire le retour en gloire. Hein. Bon, on est bien obligé d'utiliser cette terminologie religieuse, puisque tout cela a lieu dans un livre sur la religion. Le retour en gloire de la disposition au bien, qui est plus profonde, encore une fois, que le penchant au mal, qui est plus profonde parce qu'elle s'identifie avec ce qui est alors au sens strict, cette fois-ci inné, c'est-à-dire la raison pratique dont l'homme ne peut pas faire l'abstraction, dont il ne peut pas faire l'économie. En revanche, le libre choix pour le mal, celui-là, peut être repris dans un acte en faveur, cette fois-ci, de l'universel, en faveur du bien.
Que dit Kant de la religion dans ce texte, au titre tout à fait étrange d'ailleurs, la religion dans les limites de la simple raison? Que pense-t-il finalement de la religion, dont il condamnera d'ailleurs dans un texte qu'on va examiner demain, qu'est-ce que les Lumières, la nature éventuellement coercitive, en tout cas sous sa forme institutionnelle? Que dit Kant ici de la religion? Est-ce que c'est tout simplement ce que d'autres appellent une religion naturelle?
En un sens, il construit une religion naturelle, au sens même de rationnelle, sauf que c'est la raison pratique. Et pas
Il faut préciser ce qu'on entend par religion naturelle.
Je vais le préciser. La religion naturelle, en un sens classique, non kantien, justement, c'est l'idée que on prend les religions. Elle naît chez les stoïciens déjà. C'est l'idée selon laquelle on ne peut pas comprendre que s'il n'y a qu'un seul Dieu ou une seule vérité religieuse, il y ait pourtant une multiplicité de religions. C'est scandaleux, si vous voulez, en regard de la vérité religieuse postulée. Donc, il faut trouver une religion minimale, si l'on veut, un certain nombre de principes, le plus petit dénominateur commun, il y a une religion naturelle même aussi chez Spinoza, une religion naturelle, le plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire des principes acceptables par tous. Bon. Qui ferait, au fond, il y a un projet de pacification, si vous voulez, par rapport aux guerres de religion, dans le projet d'une religion naturelle, une religion qui serait naturelle à l'homme. De quoi l'homme a-t-il besoin en termes religieux et abstraction faite, des révélations historiques? Alors Kant, d'une certaine manière, reprend ce projet, mais enfin, il a une singularité, enfin, quoique on trouverait la même chose chez Rousseau, c'est qu'il affirme quelque chose qui peut sembler évidemment très scandaleux, qui semblera scandaleux à bien des contemporains, comme Goethe, qui diront que Kant ici trahit les Lumières. Il affirme qu'il y a une religion historique qui est en même temps la religion naturelle. Et cette religion, il se trouve que c'est le christianisme. C'est-à-dire qu'au fond, tous les enseignements du un certain christianisme, hein, disons le christianisme évangélique...
Il le dit, précisons-le ici, hein, donc toujours dans le même texte, dont nous parlons depuis le début.
Voilà. Hein. Dans les textes, dans les chapitres qui succèdent au chapitre sur le mal radical, puisqu'il y a un lien entre le mal et la religion, c'est que la religion répond à la question « que m'est-il permis d'espérer ?» pour Kant, et en l'occurrence, ici, « que m'est-il permis d'espérer ?» en termes de conversion vers le bien, c'est-à-dire de lutte contre le penchant au mal. Alors, il affirme donc que le christianisme, par ses prescriptions, en particulier les prescriptions sur la montagne hein, de Jésus, énonce ce que la raison elle-même aurait pu énoncer par ses seuls moyens. La raison pratique aurait pu énoncer par ses seuls moyens. Aimez-vous les uns et les autres, tous les commandements ou les prescriptions, disons, de Jésus correspondent à la morale telle que Kant l'entend. Simplement, Jésus présente cela comme une prescription religieuse, alors que Kant veut essayer de séculariser, en quelque sorte, et de dire que c'est la raison elle-même.
Ce que la religion présente comme un inconditionné, Kant en fait d'une certaine façon la généalogie.
Il en fait la généalogie, mais la ramenant à un fondement qui est un fondement rationnel. Alors il y a deux manières de lire ces textes.
C'est en cela qu'elle est dans les limites de la simple raison.
Elle est dans les limites de la simple raison. Ces limites sont précisément que, et c'est là le côté un peu subversif, que les religions, y compris le christianisme, ne nous disent rien de Dieu. Parce que si vous voulez, il y a deux manières comprendre ces textes. La première, c'est la manière qui consiste à dire, bon, voilà, la manière nietzschéenne. Le vieux chinois de Königsberg est enfin...
C'est Kant, le vieux chinois de Königsberg.
Voilà, c'est comme ça que Nietzsche appelait...
Celui qui parle rouge de la honte au front. Hein.
Voilà. Il se révèle dans son obscurité, si vous voulez, c'est-à-dire en affirmant que la religion chrétienne et la religion naturelle, il l'éternise encore plus. Il en fait la religion de la raison, c'est-à-dire la religion, la vérité elle-même.
Bon. On peut, à l'inverse, considérer que Kant inaugure un espace de laïcité en considérant que les religions elles-mêmes ne nous disent rien de Dieu.
Exactement, et c'est à mon sens d'ailleurs la bonne interprétation.
N'en doutez pas.
C'est-à-dire qu'il déthéologise les religions. On savait depuis au moins Descartes que la Bible n'est pas un traité de cosmologie, bien que certains l'oublient, les créationnistes. C'est-à-dire que nous ne saurons pas l'histoire du monde en lisant la Bible. Eh bien, avec Kant, et c'est en quoi il est d'ailleurs, sur ce point précis à mon sens, proche de Spinoza, la religion ne nous dit rien de Dieu. C'est-à-dire que...
n'est pas une théorie de la connaissance.
Elle n'est pas une théorie de la connaissance et elle ne nous dit rien de l'essence de Dieu qui, par ailleurs, pour Kant, nous échappe. En revanche, la religion... et ici, le christianisme est une symbolisation, c'est une forme symbolique, l'expression, je dirais, symbolique de ce que la raison, par ailleurs et par ses seuls moyens, peut produire comme vérité morale, si vous voulez. C'est-à-dire, quand il parle de Jésus, il ne parle ni de Jésus comme Christ, du Fils de Dieu, ni même d'ailleurs tellement du Jésus historique. Il parle de Jésus comme du symbole de la moralité. Jésus, c'est le symbole de la sainteté. Et pour Kant, c'est-à-dire, au fond, c'est littéralement l'image que de ce que l'homme devrait être, n'arrivera jamais à être, mais devrait être. Et pour un chrétien, je dirais, un chrétien croyant, si vous voulez, je ne suis pas convaincu qu'on puisse se satisfaire d'une telle thèse, que Jésus est un symbole. De la même manière, je ne pense pas qu'on puisse être satisfait, quand on est chrétien, de la thèse de Spinoza, selon laquelle Jésus est un philosophe. Parce que dire qu'il est un philosophe ou dire qu'il est un symbole, si vous voulez, eh bien c'est dire qu'au fond, il n'est pas d'abord, en tous les cas, que nous ne pouvons pas savoir qu'il est le Fils de Dieu, et qu'il n'est pas non plus, si vous voulez, l'incarnation, au sens humain du terme, cette fois-ci corporelle, charnelle du terme, de Dieu sur Terre.
Dernière question dans ces conditions, Michael Fossel, que m'est-il permis d'espérer, puisque c'est la question de Kant, que m'est-il permis d'espérer? Que suis-je en mesure d'espérer? Qu'ai-je le droit d'espérer, en somme?
Eh bien, j'ai le droit d'espérer que la vertu que je dois réaliser librement, c'est-à-dire le choix, encore une fois, moral, ait des répercussions sensibles, c'est-à-dire qu'elle s'associe au bonheur. Chez Kant, il y a un point fondamental, évidemment, on l'a déjà évoqué, c'est que le devoir, la vertu, l'obéissance au devoir n'est pas une promesse de bonheur. Que dois-je faire? Ça n'est pas que m'est-il permis d'espérer. Même le plus souvent, il y a des justes souffrants. Hein, Kant évoque dans d'autres textes de manière très positive la figure de Job, hein, le juste souffrant, c'est-à-dire celui qui est vertueux mais qui n'est pas heureux. Bon, et de la même manière, le méchant impuni. Ce sont les deux grandes figures symétriques, si vous voulez, de l'injustice, cette fois-ci du mal d'injustice dans le monde. Pourquoi? Encore une fois, parce que l'obéissance à la loi morale ne garantit nullement d'être sanctionné par le bonheur de celui qui agit. Donc l'espérance porte sur ce que Kant appelle le souverain bien. Le souverain bien, c'est l'idée que la vertu soit récompensée par le bonheur.
Mais alors, de ce point de vue, pardonnez-moi, Michael Fossel, on est en plein Spinoza. Puisque Spinoza, tout le propos de Spinoza est de débarrasser l'homme, justement, de toute perspective d'une récompense, expliquer que la vertu n'a pas besoin de principe, que ces hommes qui agissent en vue soit de l'espoir, soit parce qu'ils redoutent, soit parce qu'ils ont la crainte, soit parce qu'ils ont l'espoir, ces hommes-là sont les mêmes qui, le jour où l'espoir ou la crainte se dissipe, déposent le fardeau de leur action et se mettent à mal agir, ce qui, pour Spinoza, est tout à fait absurde. Est-ce qu'il ne s'agit pas, dans les deux cas, chez Kant comme chez Spinoza, en somme, d'une action qui serait à elle-même sa propre fin, c'est-à-dire qui n'agirait pas, enfin qui ne serait pas accomplie en vue d'une récompense. Est-ce qu'en somme, ça n'est pas ça, le souverain bien?
Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de pourboire, si vous voulez, à la morale. Alors simplement, pour Kant, Kant maintient quand même l'idée d'une finitude sensible, c'est-à-dire que l'homme, dit-il à plusieurs reprises, ne peut pas faire abstraction de son espoir de voir récompenser son action dans le monde, qu'il y ait du bonheur dans l'action au sens premier du bonheur, c'est-à-dire un succès de l'action. Et d'ailleurs, vous parlez de Spinoza et ça tombe très bien, puisqu'il y a un texte de Kant dans la critique de la faculté de juger sur Spinoza où il dit au fond, Spinoza, c'est l'athée rigoureux, il a parfaitement raison du point de vue de la morale, la vertu ne se récompense pas, mais il n'a pas pu être spinoziste, c'est l'hypothèse de Kant, jusqu'au bout, c'est-à-dire faire abstraction, si vous voulez, ça, ou alors cela concernerait peut-être le sage dans sa version ultime, faire abstraction, disons, de la question de la réussite du bonheur qui viendrait sanctionner cette vertu. C'est pour cela qu'aux yeux de Kant, il a méconnu Il a méconnu, disons, la dimension malgré tout religieuse, mais en un sens très, très général, c'est-à-dire au fond, la question de l'espérance, il l'a aux yeux de Kant, alors c'est un hommage en fait à Spinoza, puisque Kant dit Spinoza c'est l'auteur le plus conséquent et que la conséquence est la principale des vertus en philosophie, mais que d'un point de vue, au fond, il y aurait chez Spinoza, comme au fond aux yeux de Kant, chez tous les métaphysiciens, une occultation, un déni de la finitude humaine, c'est-à-dire une promotion, si vous voulez, de la raison telle qu'elle finit par être, en quelque sorte, alors je ne dis pas que c'est défendable d'un point de vue spinoziste, mais une promotion telle de la raison qu'elle finit par occulter la dimension fondamentale sensible de la nature humaine, qui en l'occurrence est celle de l'espérance dans un bonheur futur.
Merci Michael Fossel, c'était passionnant de vous entendre sur la question du mal radical dont on retiendra aujourd'hui qu'il n'est pas le mal absolu. Comme tous les jours, je renvoie l'auditeur à votre livre sur Kant, Kant et l'équivoque du monde, paru aux éditions du CNRS, un livre très difficile mais passionnant. Je renvoie également d'ailleurs à un autre livre plus facile et tout aussi passionnant intitulé La privation de l'intime, paru au Seuil en 2008. Quant au texte de Kant lui-même, La religion dans les limites de la simple raison, on le trouve chez Vrin. Demain, Michael Fossel, nous terminerons en votre compagnie cette semaine consacrée à Kant dans les nouveaux chemins de la connaissance, en évoquant les opuscules sur l'histoire, en particulier l'idée pour une histoire universelle du point de vue cosmopolitique, le projet de paix perpétuelle, mais aussi un texte magnifique et simple, figurez-vous, intitulé « Qu'est-ce que les Lumières ?» Vous pouvez, chers auditeurs, je vous le dis tous les jours, mais c'est jamais de trop, podcaster ces émissions toute la semaine sur notre site internet, à la page des nouveaux chemins de la connaissance. À la technique aujourd'hui, Michel Maistre, notre maître à tous, le roi du micro, le prince de la molette, l'empereur des potentiomètres. À la réalisation, François Connac, assistante et collaboration Geneviève Méric, Tristan Grenassiat, Jennifer Murzo, Adèle Van Rett. France Culture, il est 17h50, tout de suite Albert Jacquard.